jour de feuillages au front. Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, émission proposée par le groupe La Rue de la Fédération anarchiste. Nous accueillons ce soir Simon Cotin-Marx, sociologue et maître de conférence au CNAM, pour parler de son dernier ouvrage co-écrit avec Baptiste Milondo, qui n'a pas pu être là ce soir. Ce livre s'intitule « Travailler sans patron ». Mettre en pratique l'économie sociale et solidaire. Ce livre pose de nombreuses questions. Peut-on se passer de hiérarchie, de chef et de patron? Peut-on instaurer une organisation libertaire dans l'univers professionnel? À travers un important travail de recherche, Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondo brossent un tableau riche et nuancé de formes organisationnelles, associations, coopératives, mutuelles, significatives de l'économie sociale et solidaire, et dont certaines fonctionnent selon le principe de l'autogestion. Ces formes organisationnelles sont présentées ici comme une alternative au capitalisme libéral. Travailler sans patron nous parle de femmes et d'hommes qui mettent en avant des valeurs de solidarité et d'entraide comme solution aux antagonismes et qui, dans le cadre de leurs activités, mettent en place des pratiques anti-autoritaires fondées sur des principes de liberté individuelle et de démocratie directe. Les auteurs montrent les difficultés propres, mais aussi la force et le pouvoir émancipateur de ces structures. Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de t'accueillir ce soir à Radio Libertaire. Première question, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce bouquin?
Oui, alors d'abord, merci aussi pour l'invitation. Eh bien alors, pour la genèse, en fait, il y en a plusieurs, parce qu'on est deux, on l'a écrit à quatre mains, ce livre. Alors moi, pour ma part, j'ai milité pendant longtemps pour le droit au logement, contre la précarité, et puis en plus divers mouvements sociaux dans des syndicats. Évidemment, j'ai expérimenté les difficultés de l'autogestion. Et Baptiste aussi, qui est un économiste décroissant, mais qui a aussi une carrière, il a aussi travaillé dans des coopératives. Notamment dans des coopératives de distribution alimentaire.
Il est prof à Sciences Po Lyon, je crois.
Il est prof à Sciences Po Lyon, mais il a une multitude d'activités. Voilà, il n'est pas titulaire encore, et on espère qu'il le sera un jour. Et alors, du coup, le livre, en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Et en fait, de mon côté, en fait, un jour, je lui ai expliqué que À l'époque, je présentais un autre livre qui s'appelle « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ». Et en fait, c'est un livre où j'interroge, je me demande pourquoi en fait les conditions de travail dans le monde associatif sont moins bonnes qu'ailleurs. Hein, dans le monde associatif, hein, donc c'est 1,8 million de salariés, enfin surtout des femmes, hein, et ce qu'on observe, c'est que les salaires sont plus bas, les cadres gagnent 14 à 30% de moins que dans le secteur privé ou dans le secteur public, il y a le temps partiel est beaucoup plus développé et souvent subi, il y a beaucoup plus de CDD, hein, le CDD, le contrat à durée déterminée, c'est la norme, et non pas la CDI. Bref, tout ça, ça nous fait dire que dans le monde associatif, c'est le salariat atypique qui est typique. Donc ça, c'est un autre sociologue qui dit ça, c'est Mathieu Ely. Voilà, donc moi, je suis parti de ce constat-là. J'ai étudié pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, les conditions de travail dans les assos sont moins bonnes. Donc du coup, il y a des causes externes, hein, clairement. Elles sont mal financées, elles sont positionnées sur des secteurs qui sont mal financés par la puissance publique. Et aussi, il y a des facteurs internes. Le fait de travailler avec des bénévoles pour la cause, et aussi pour des patrons et des employeurs, en fait, qui sont eux-mêmes des bénévoles et qui ont du mal à prendre en charge la fonction employeur, prendre en charge leurs responsabilités. En fait, ce livre, je l'ai présenté une cinquantaine de fois, hein, dans des librairies, devant des syndicats, sauf qu'à la fin, les gens, ils étaient complètement déprimés ou hyper en colère. Et je me suis dit, oula, en fait, je pose un constat qui est un peu violent, qui m'énerve et qui me donne envie de m'engager, et c'est ce que j'essaye de faire et de transmettre quand je le présente ce livre. Mais en même temps, je me suis dit, le livre est fini aussi avec une troisième partie où il y a quelques solutions. Et en fait, ces solutions, je ne les avais pas complètement explorées. Et du coup, je me suis dit, comment on fait, hein, en fait, pour s'organiser dans une organisation associative ou autre, hein, sans patron. Et du coup, ce livre, c'est la réponse, en fait. C'est un livre de solutions. En tout cas, on espère que c'est un livre de solutions. Il y a aussi beaucoup de problèmes dedans.
En fait, vous brossez un tableau historique aussi dans ce bouquin, Baptiste et toi. L'économie sociale et solidaire est donc très ancienne. Quand est-ce qu'elle est née et pourquoi ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, donc, c'est un concept, hein, qui est né assez récemment finalement, parce qu'on parle d'économie sociale et solidaire seulement depuis les années 2000. Avant, on parlait d'économie sociale. Il y a plusieurs généalogies. On peut faire remonter l'économie sociale et solidaire, enfin, finalement, au pharaon, hein, au Moyen-Âge, comme Jean-François Drapry. Nous, on regarde plutôt, on se dit, il y a plusieurs histoires de l'ESS. Hein. Quand je parle d'ESS, c'est pour parler d'économie sociale et solidaire. Mm-hmm. Et il y en a une, notamment ouvrière. Il y a les associations ouvrières qui ont créé de la solidarité. Solidarité contre les risques du travail, contre la pauvreté, contre la vieillesse. Voilà. En gros, le monde ouvrier s'est organisé au moment de l'industrialisation, donc au 19e siècle, en France, mais aussi partout dans le monde, pour créer de la solidarité ouvrière. Donc ça, c'est une des branches de l'économie sociale et solidaire. Mais il y en a une autre aussi, plus philanthropique, qui est plus héritée du patronage. Voilà. Et en gros, on a ces deux grands courants, un qui vient du monde ouvrier, puis un autre qui vient plutôt, de la bourgeoisie, hein, mais qui était plutôt sociale, on va dire, les cathos de gauche, on dirait aujourd'hui, la bourgeoisie un peu sociale. Et ces deux courants, ils sont rapprochés, puis on va dire qu'ils ont fusionné au début du XXe siècle. Et on a des personnes comme Charles Gide qui nous parlent d'économie sociale, hein, pour parler d'une économie qui ne vise pas simplement la recherche de profit, mais qui cherche aussi l'utilité sociale ou de répondre à des besoins collectifs. Voilà. Et alors, donc ça, c'est une longue histoire. En fait, c'est plusieurs histoires. Je vous ai dit tout à l'heure, on parle d'économie sociale et solidaire seulement depuis les années 2000. Et c'est vrai que depuis les années 2000, on parle d'ESS et puis on a commencé à donner aussi une définition. Donc, quand on parle d'ESS, donc historiquement, on parle de structures qui ont des statuts particuliers. Hein. L'ESS, c'est d'abord les associations loi 1901. Donc, c'est des structures particulières parce que c'est des structures qui sont composées d'au moins deux individus, hein, qui se rassemblent pour un projet collectif. Autre que la recherche de bénéfices, hein, quand on travaille, les associations n'ont pas le droit de partager les bénéfices qu'elles font à leurs membres. Voilà. Il y a aussi une autre famille, c'est les coopératives ouvrières de production ou de participation. Aujourd'hui, on a aussi les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, donc ça, c'est la famille des coopératives. La particularité des coopératives, c'est qu'elles appartiennent à leurs membres. Hein, dans les associations, les assos, elles appartiennent aux adhérents, alors que les coopératives appartiennent aux travailleurs. Et enfin, la troisième grande famille, hein, c'est celle des mutuelles, hein, les mutuelles de santé. Voilà. Donc encore une fois, là, c'est un système de socialisation des risques. C'est-à-dire qu'on a des gens qui adhèrent à une structure, qui donnent de l'argent, puis voilà, qui leur redistribuent en fonction des besoins. Donc ça, c'est l'économie sociale historique, avec la loi Hamon de 2014, hein, donc Benoît Hamon, quand sous François Hollande, il était ministre de l'économie sociale et solidaire, il a fait voter une loi, et en fait, du coup, il rajoute à cette famille historique, hein, les assos, les coopératives et les mutuelles, il rajoute les fondations, voilà, l'entreprise, les fondations, et aussi...
Il y a l'aspect caritatif.
Oui, il y a l'aspect caritatif, et il y a aussi les entrepreneurs sociaux. Et là, du coup, il fait rentrer un peu la bête dans la bergerie. C'est-à-dire que les entrepreneurs sociaux, bah, c'est des entreprises classiques, hein, qui font des bénéfices, mais qui s'engagent, du coup, à avoir une démarche participative, à mettre en réserve une partie de leurs bénéfices, bon, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, l'ESS, c'est d'abord des statuts. L'ESS aussi, c'est des secteurs d'activité. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 1,8 million de salariés dans le monde associatif. Donc, c'est le gros morceau de l'ESS. Au total, on considère qu'il y a 2,3 millions de salariés dans l'économie sociale et solidaire. Une vingtaine de millions de personnes qui font du bénévolat dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, l'ESS intervient dans des secteurs, grosso modo, quand même assez précis. Hein. On va les retrouver beaucoup dans le secteur social, médico-social et la santé. Donc ça va être des hôpitaux, des cliniques, ça va être donc
l'aide
des EHPAD, l'aide à la personne, les crèches, le travail social sur le handicap. Voilà, ça c'est un des gros secteurs de l'ESS. On a aussi le secteur de l'animation, hein, socioculturel, ce qu'on appelait avant et on peut appeler encore l'éducation populaire. On a le secteur de l'insertion, on a le secteur de la culture. Voilà. Donc c'est un ensemble de secteurs, mais qui sont plutôt du côté social, culturel. Et bon, donc ça, c'est une autre manière de définir l'ESS. Et après, bah, nous, comme on définit l'ESS avec Baptiste, on parle plus de valeurs. Voilà, on se dit, dans l'économie sociale et solidaire, c'est des structures qui partagent un projet, notamment bah, de démocratie, de partage équitable des richesses et de coopération.
En fait... tu dis que, enfin, vous dites avec Baptiste que l'ESS repose sur trois piliers fondamentaux, ouais, hein, qui sont la démocratie, l'économie équitable et le monde du travail qui se veut différent. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette différence, justement ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie dans l'ESS ? Qu'est-ce que c'est que, voilà, l'économie équitable, c'est quoi dans un monde voilà, capitaliste où, effectivement, tout n'est que rentabilité, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trois piliers fondamentaux ? Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ?
Oui. Oui, de toute façon, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, en fait, elle n'est pas en dehors du capitalisme. Hein. Donc, elle s'inscrit dans l'économie de marché et elle se retrouve notamment en concurrence avec des entreprises, hein, dont le but, c'est l'accumulation de profits.
Voilà. De plus en plus.
Ouais. En tout cas, ça s'est présenté depuis un certain moment. La concurrence capitaliste, elle a toujours existé, même pour l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à marchandiser des secteurs qui ne l'étaient pas auparavant. Mais alors, du coup, donc oui, trois piliers. Hein, donc, comme tu l'as bien dit, hein, donc c'est des organisations démocratiques qui répartissent autrement les richesses et en même temps qui font de la coopération. Et c'est là que nous, quand on regarde la réalité, hein, de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, en fait, on se voile pas la face, hein, et on préfère désenchanter, en fait, ce qu'on dit qui est un mythe, parce que en
oui,
fait,
justement, oui,
ouais, l'économie sociale et solidaire, bon, en pratique, quand même, c'est un peu compliqué, parce que des organisations démocratiques, voilà, par exemple, je sais pas dans quelle banque vous êtes, mais moi, je suis au Crédit Coopératif, donc c'est une super banque, hein, qui est plus éthique que les autres. Chaque année, ils organisent une assemblée générale. Voilà. Donc, je reçois mon petit courrier chez moi et qui m'invite à voter à l'Assemblée générale. Sauf que bah, quand j'ouvre le courrier, bon, bah, je vois des listes de vote, j'ai le droit de choisir entre A ou B ou C. Sauf que, bah, évidemment, je ne comprends pas très bien ce pourquoi je vote, hein, parce que je ne suis pas vraiment informé. Donc, en effet, Il y a la démocratie.
La MAIF fait la même chose.
La MAIF.
La MGN fait la même chose.
Voilà. Ouais. Donc les grosses banques, les grosses mutuelles hein, que tu as nommées, oui, oui. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la démocratie institutionnelle. Mais en fait, en pratique, est-ce qu'on peut vraiment parler de démocratie ? Bon, en tout cas, moi, quand je vote, d'ailleurs, ce que je fais rarement, du coup, eh ben, je ne me considère pas comme informé. Je ne comprends pas quels sont les enjeux politiques hein, qu'il peut y avoir derrière les choix. C'est un simulacre de démocratie. Après, peut-être qu'il n'y a pas non plus des enjeux qui apparaissent chaque année à l'Assemblée Générale. Mais en tout cas, voilà, on voit bien les limites que ça a. Et puis, je pense qu'on a tous été confrontés à ce genre de choses. Voilà, quand on est dans des assos, bon, bah voilà, au moment de l'Assemblée Générale, eh bien, on vote le budget, le bilan, et puis le budget prévisionnel. Et puis voilà. Mais voilà, c'est un peu un simulacre de démocratie, comme tu dis. En tout cas, elle est assez limitée. Après, pareil aussi, quand on regarde les grandes banques ou les grandes mutuelles, les grandes assurances mutualistes, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des sacrés écarts de salaire. Voilà, dans le livre, on parle notamment d'une association. Hein, qui s'est fait taper sur les doigts par le Canard Enchaîné et puis par le département du 94, qui s'appelle Equalis. Et en fait, le patron gagnait près de 10 000 euros, le directeur gagnait près de 10 000 euros par mois, il avait une voiture de fonction à 1 500 euros par mois, et il avait un nombre d'avantages incalculables. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que dans le SS, en fait, il y a aussi des inégalités économiques qui sont complètement aberrantes et qui ne sont pas justifiées. Et enfin, sur le troisième pilier, c'est pour ça qu'on parle de mythe, hein, le mythe de la coopération, on va dire, coopération dans le travail. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une asso, une coopérative ou une mutuelle que les chefs et les petits chefs y disparaissent. En fait, dans les structures de l'ESS, même s'il y a des valeurs, ces valeurs de coopération, un peu, des fois on est en famille et tout, eh bien, malgré tout, il y a des hiérarchies. Hein, elles n'ont pas été abandonnées, loin de là. Elles existent. Voilà, dans les associations, bah, on a le président. Quand elles sont grosses, on peut avoir même un PDG, des directeurs en pagaille, des chefs de service, etc. Voilà. Donc, c'est pas, on parle d'isomorphisme en sociologie pour dire que les associations, isomorphisme, ça veut dire que les associations ressemblent, se construisent aussi en miroir de l'administration ou des entreprises privées classiques. Et finalement, parfois, on a quand même du mal à voir la différence entre une entreprise de l'ESS et une entreprise capitaliste classique. Et
D'ailleurs, tu parles de réconciliation du travail et du capital dans ton livre. Oui. Donc, on est bien là-dedans.
En fait. Oui, oui. En fait, dans l'ESS, on se dit que finalement, vu qu'on travaille tous pour un projet social et solidaire, hein, pour l'intérêt commun, l'intérêt collectif, l'intérêt général, des choses comme ça, finalement, ça met fin à l'antagonisme qu'il y a dans le travail. Hein, il y a un peu ce mythe que c'est une économie de la réconciliation. Vu qu'il n'y a pas... Parce que, en fait, on est dans un secteur où il n'y a pas de propriétaire du capital. Dans une asso, elle n'appartient pas à un capitaliste. Parce que personne n'a mis d'argent dans l'association. Elle appartient à ses adhérents. Contrairement à une entreprise capitaliste, personne n'est propriétaire de l'association. C'est la propriété des adhérents. Et pour adhérer, en général, c'est quoi ? C'est 10 euros ou à peine plus. Voilà. Donc du coup, il y a cette idée que c'est le lieu de réconciliation entre travail et capital, sachant qu'il n'y a pas de capital. Sauf que il y a des syndicats dans le monde associatif notamment, comme le syndicat ASSO hein, de Solidaire, qui nous rappelle bien, c'est un syndicat qui est un peu particulier, parce qu'en fait, dans le monde associatif, il y a plein de secteurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Du coup, il n'y a pas de syndicat qui s'impose dans certains secteurs. Et du coup, il y a le syndicat ASSO qui dit, nous, on va syndiquer tous les gens en fait, qui sont dans les secteurs pas couverts par des conventions collectives. Et du coup, ça fait quand même un paquet de monde. Et maintenant, c'est un des principaux syndicats de Solidaire, ASSO. Bref. Et du coup, ASSO, il montre bien en fait, qu'il y a énormément de conflits hein, du travail aussi dans les associations. Et puis bon, l'actualité nous l'a rappelé récemment avec Emmaüs, dans le Nord, où il y a des plaintes hein, pour traite d'êtres humains. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui sont exploités dans des communautés Emmaüs.
Voilà. On n'échappe pas au rapport de pouvoir, en fait.
On n'échappe pas au rapport de pouvoir dans l'ESS. Voilà, c'est un peu nos points de départ. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des mythes, évidemment, vu que j'ai dit, c'est un livre des solutions, mais je pense qu'on va en parler après.
Et le début du bouquin, il y a une très longue citation d'un monsieur qui s'appelle Meister, si je ne me trompe pas.
Albert, oui.
Albert, voilà, c'est ça. Et qui dit qui a écrit en 1984 Le songe égalitaire. Je ne sais pas qui c'était d'ailleurs, Albert Meister.
Meister, c'était un sociologue qui a beaucoup écrit entre les années 50 et 80.
Il était sociologue et anarchiste.
Voilà. Ouais. Et c'était un grand spécialiste de l'autogestion. Et en fait, il a exploré le monde entier. En fait, il allait voir des coopératives d'habitants en France, en Suisse. Il allait voir l'autogestion de Tito, hein, Yougoslavie. Il allait voir l'autogestion en uniforme au Pérou. Enfin, ouais, c'était des militaires qui faisaient l'autogestion, un peu spécial. Bref, il allait voir toutes sortes de formes d'organisations autogestionnaires. Et c'est vrai que, du coup, dans les années 80, après une longue carrière, après avoir vu des centaines, peut-être des milliers d'organisations autogestionnaires, il est un peu désabusé.
Voilà. Oui, il est tout à fait désabusé.
Et du coup, tu nous lis la...
Voilà, alors, contrairement donc à vous qui quand même pensez qu'il y a des solutions possibles pour l'autogestion, alors je ne vais pas tout citer parce que c'est... Alors, il parle justement de ces groupes qui sont censés fonctionner avec l'autogestion. Il est bien connu que la démocratie dans tous ces groupes est en fait un processus de sélection des chefs. Déjà, ça commence mal. Malgré la formation de leurs membres, malgré l'animation et toutes les démarches de pédagogie nouvelle, malgré toutes les règles pour empêcher l'institutionnalisation, cette répétition des rapports sociaux de la société plus vaste se reproduit, se refait continuellement. Alors, et il dit, cette première remarque me suggère un étonnement, car en face de ces échecs répétés de l'autogestion, on constate la surprenante permanence de l'idéal égalitaire. Voilà. En fait, l'échec ne sert à rien, car chaque génération reprend et revit le songe égalitaire et refait les mêmes discussions avec, naturellement, les changements de vocabulaire dus aux modes différents et aux circonstances. Donc lui, non seulement il dit que ça ne marche pas, mais qu'en plus on n'apprend pas. Voilà.
Oui, c'est Albert Meister. Oui. Nous, on l'aime beaucoup parce que, oui. Mais je vais en reparler. Mais en fait, il nous lance un défi incroyable. C'est-à-dire, comment, parce qu'en fait, on dit OK, Meister, on a bien entendu ta leçon, mais en fait, chiche. Nous, on pense que c'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le bouquin, parce qu'on parle d'une cinquantaine d'expériences qui fonctionnent peut-être partiellement, parfois. Pas longtemps, mais en tout cas qui fonctionne d'autogestion. Mais du coup, pour revenir sur Meister, donc il a énoncé une loi. C'est la loi, il dit, de dégénérescence des organisations démocratiques. Voilà, donc encore une fois, c'est un bon connaisseur, on lui fait confiance. Et il dit, donc il y a quatre phases. La première phase, c'est la conquête. En fait, c'est la phase où tout le monde est à égalité. Voilà, donc moi, un exemple que j'aime bien citer, c'est une association que je suis allé rencontrer, qui est née, c'est un foyer d'accueil pour jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et cette structure, dans les années 80, elle devait fermer, donc la congrégation religieuse qui détenait le lieu voulait la fermer. Et les salariés se sont mobilisés, les salariés eux se sont mobilisés, c'était que des femmes, et elles ont mené une lutte victorieuse, et elles ont obtenu que le lieu rouvre. Mmh. Donc là, on est vraiment dans la phase de conquête. En fait, on a fait une lutte sociale, on a égalité. Tout le monde est aussi légitime l'un que l'autre. Donc là, évidemment, on prend toutes les décisions en assemblée générale, et en plus ça roule parce qu'on est entre copains, entre camarades, et les choses sont faciles. Puis bon, alors ça c'est la phase 1. Après il parle de la phase de consolidation économique, ensuite la phase de coexistence, et enfin le pouvoir des administrateurs. Voilà. En gros c'est ça. Il dit il y a cette dégénérescence, c'est que petit à petit. Prendre toutes les décisions en assemblée générale tous les jours, c'est pas très efficace. Donc quand même, faut bien se l'avouer. Et du coup, il y a un moment, on va commencer à mettre en place la division du travail. On va conférer des mandats à certains, mais c'est pas grave parce que, on est toujours tout le monde sait ce que fait l'autre. On est donc quand même dans une phase encore assez démocratique. Mais petit à petit, les gens qui ont des mandats, on va leur faire confiance.
Ça se passait par tirage au sort, par exemple, ou comment étaient choisis les mandatés?
Dans cette structure, c'est un système syndical, donc c'était la démocratie. Donc oui, c'est une forme de démocratie syndicale, c'est-à-dire qu'on confie des mandats à certains. Donc du coup, oui, il y a un vote.
D'accord.
Voilà, au début. Et bon, après là, sans parler spécifiquement de cette structure que j'ai en tête, mais ouais, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, les gens à qui on confie des mandats, finalement, ça veut dire un peu leur domaine d'expertise, hein, et du coup, ça va être de plus en plus difficile, voilà, de contrôler ou même de discuter leur décision, parce que finalement, ils ont aussi cette expertise. Aussi, peut-être la structure de l'ASE, ça marche pas, mais dans certaines structures autogestionnaires, en plus, on est en concurrence avec le marché, avec d'autres entreprises ou d'autres associations. Donc, on doit être efficace. Donc aussi, on prend de moins en moins de temps pour discuter, pour la démocratie. Voilà, donc petit à petit, en fait, ce qu'il dénonce, Albert Meister, c'est que la démocratie va être confisquée par ce qu'un autre sociologue qui s'appelle Roberto Michels a appelé la loi des reins de l'oligarchie.
Voilà, oui, donc, justement, voilà. Oui. Je voulais te demander justement de développer aussi cette question, justement, l'impossibilité mécanique de réaliser la démocratie directe, en fait.
Ouais, ça c'est ce que nous raconte Roberto Michels. Alors du coup, pour le présenter, il a très mal fini, hein, parce qu'il a fini par soutenir les nazis, mais ça c'est... Là on va parler de quelques années plus tôt, quand il était encore démocrate. C'est un Italien, mais il était en Allemagne, donc au début du XXe siècle. Et il a étudié, il a fait un livre, c'est un grand classique hein, des sciences sociales. Il a étudié le Parti démocrate allemand. Qui est un parti de masse, hein, avec plusieurs centaines de milliers de membres, évidemment, il s'interroge sur ce qu'il a appelé la loi des reins de l'oligarchie. Et lui, ce qu'il dit, c'est que toutes les organisations démocratiques, hein, et c'est pour ça qu'il inspire, je pense, fortement Albert Meister, hein, toutes les organisations démocratiques sont vouées à voir émerger une oligarchie, à se doter de chefs. Voilà. Mmh. Et pour expliquer ça, hein, cette dérive hein, des organisations démocratiques, il dit il y a trois raisons. D'abord, il y a une raison technique. Roberto Michels, il dit qu'en gros, c'est impossible, et on le comprend, hein, d'avoir une démocratie directe à plusieurs centaines de milliers de membres. En effet, ça peut être un peu compliqué. Ensuite, il dit il y a une autre raison qui explique la création d'une oligarchie, c'est des raisons qui sont psychologiques. Et alors, du coup, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que les masses ont besoin de se doter de chefs.
Chef, voilà. Ouais. Bon, donc, pour s'identifier.
Voilà, pour s'identifier. Donc, voilà, c'est naturel, selon lui, finalement. En tout cas, c'est logique que les structures se dotent de personnes qui ont le charisme et qui représentent l'organisation. Et enfin, il y a une troisième raison qui explique cette loi des reins de l'oligarchie. Elle est intellectuelle. En gros, finalement, ce qu'il nous explique, c'est que la prise de décision nécessite des compétences. Et voilà, et c'est ce qui peut se passer facilement dans une structure autogérée. C'est-à-dire que, on grossit, il y a quelqu'un qui va s'occuper des finances. Et du coup, qui va développer son expertise là-dessus. Sauf que cette expertise, elle ne va pas forcément être partagée. Et du coup, si elle n'est pas partagée, ça donne du pouvoir à cette personne. Parce que c'est la seule à comprendre, à maîtriser les enjeux. Et du coup, finalement, à faire les choix politiques dans l'organisation.
Mais en même temps, quand on est dans cette approche, on est dans une approche idéologique. On est bien d'accord.
Comment ça ?
Dans le fait de dire que, par exemple, qu'il faut avoir des compétences pour pouvoir accéder à des postes plus importants, etc. On est vraiment dans un courant idéologique, hiérarchique, où ça justifie, en fait, le courant hiérarchique et une approche hiérarchique du monde et du monde du travail, mais pas seulement, des rapports sociaux aussi. Donc, Michel, là, pour le coup, un peu compliqué, quoi.
Oui, non, enfin, pas. De toute façon, en plus, il a été beaucoup discuté et très critiqué, évidemment. Albert Meister, il lui donne pas complètement tort. Parce que quand il étudie, du coup, des structures autogestionnaires, ce qu'il se rend compte, c'est ça, qu'il y a quand même cette division du travail qui se met en place et et qu'on confie des mandats à des administrateurs et qu'on a du mal à les contrôler. Pour différentes raisons, hein, parce qu'ils ont du pouvoir, un pouvoir charismatique, parce qu'ils ont des compétences et des connaissances de la boutique que les autres n'ont pas.
Et donc on a l'impression que le fonctionnement d'autogestion nécessite une lucidité permanente et une vigilance en fait de tous les instants pour ne pas tomber dans les pièges qu'indique Michel. C'est véritablement se questionner sur le fonctionnement démocratique, sur la division du travail dont vous parlez beaucoup, la manière de se débrouiller avec ce... avec ce concept de division du travail, avec la taille aussi de l'entreprise. Enfin, on a l'impression que ça nécessite, oui, une vigilance permanente pour que ça puisse fonctionner, d'identifier,
oui,
au fur et à mesure. Ouais. Les problèmes qui peuvent surgir et d'y répondre au fur et à mesure.
Ah bah, ça, c'est clair qu'il faut, oui, être vigilant. Après, oui, ce qu'on explique aussi dans le livre, hein, c'est que toutes les organisations ont leurs problèmes. Hein, voilà, une administration ou une entreprise classique, capitaliste et hiérarchique a ses problèmes. Les structures autogestionnaires ont les leurs. Voilà. Et bah, du coup, oui, ça, c'est un des problèmes. C'est qu'en fait, il faut être vigilant pour faire fonctionner les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Après, Roberto Michels et Albert Meister, ils nous lancent un défi. Hein, voilà, Albert Meister, il nous dit, en fait, on n'apprend pas de nos erreurs. Ben, nous, on dit, OK, ben, on va construire une culture des précédents. Voilà, une culture des précédents, des organisations autogestionnaires. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui a été fait par le passé et comment on peut faire mieux, hein, voilà. Donc, du coup, c'est un peu le défi. Et encore une fois, on dit chiche. Et puis, du coup, on propose une foultitude de réponses.
Qu'on va aborder, oui, peut-être dans la deuxième
partie.
On va lancer notre pause musicale. Je n'arrive pas à discerner, Frédéric. Ah oui, voilà, notre technicien. Frédéric, tu lances, s'il te plaît.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier. Escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, garde-forme. Quand je vois se poindre les pyramides, néonées, mes lubies. Coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. We'll be right back.
89.4, Radio Libertaire. Et nous sommes au Grand Soir du Mardi et nous sommes avec Simon Cotin-Marx, auteur avec Baptiste Milondeau du livre « Travailler sans patron » paru chez Gallimard. Voilà. Pardon. Alors, on se posait la question, justement, on parlait des écueils, hein, la fatalité de l'oligarchie, voilà. L'idée, c'est comment éviter ça, justement. Comment éviter que se recréent des pouvoirs, des hiérarchies. Voilà.
Ouais, bah, très bonne question, parce qu'on a un chapitre qui est consacré à comment conjurer l'émergence d'un pouvoir centralisé et hiérarchique. Mmh. Bon, et du coup, on commence par mobiliser notamment une militante féministe américaine qui s'appelle Jo Freeman, et qui nous dit, attention, déjà, si on est dans une structure, voilà, dans l'ESS, parfois, on est entre copains, voilà, et on se dit, bon, on va pas se donner de règles et tout, et puis tout va bien se passer, hein, c'est la démocratie, tout, entre égaux, bon. Et en fait, Jo Freeman, elle nous dit, attention, en fait, parce que si on se donne pas de règles, en fait, on fait le choix de la domination, d'un risque de la domination et celui de la domination charismatique. C'est-à-dire que si on ne donne pas de règles et si on n'encadre pas la démocratie dans un groupe, en fait, bah, y a toujours quelqu'un, hein, c'est ce que nous disait Mitchell, ça, avec la loi des reins de l'oligarchie, il y a toujours quelqu'un en fait, qui va avoir l'ascendant, prendre le pouvoir.
Puis l'énergie, tout simplement.
Ouais,
hein.
L'énergie. Voilà. Donc elle dit, bah, déjà, comment on fait pour éviter d'avoir un chef, déjà, dont on ne veut pas, enfin, du coup, bah, il faut donner des règles, première chose. Donc Jo Freeman, elle dit, à la domination charismatique, en fait, vaut mieux choisir la domination légale, c'est-à-dire qu'on encadre, hein, on se dit comment on décide et on donne des mandats ensemble. Ensuite, comment conjurer l'émergence d'un pouvoir centralisé et hiérarchique ? Bah, on a fait appel à des anthropologues, bon, pendant que la musique passait, donc on a parlé de David Graeber, mais il y en a eu d'autres, et notamment Claude Lévi-Strauss, qui allait voir des structures, des sociétés, des civilisations même, hein, enfin, notamment en Amazonie, qui avaient des rapports à la chefferie, hein, qui sont un peu particuliers, en tout cas différents de ce qu'on peut connaître, ou de ce dont on est habitué. Et notamment, il nous parle, Claude Lévi-Strauss, de saisonnalité des pouvoirs. Il va voir, alors que je me trompe pas, hein, c'est chez les Nambi Kwara, il me semble. En gros, il y a deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, bah, il y a un chef, hein, il donne des ordres, il a des privilèges. Mais pendant la saison sèche, il peut toujours aller se faire voir et se gratter, quoi. Donc ça, c'est assez amusant de te dire qu'il y a une saisonnalité des pouvoirs. Et en fait, quand on y réfléchit, dans nos organisations aussi, il y a une saisonnalité. Hein, les assos, moi, que je connais bien, et celles dont on a parlé tout à l'heure, bah, c'est le moment de l'Assemblée Générale. Au moment de l'Assemblée Générale, en fait, on est tous entre égaux. Mais ça dure qu'un jour, puis après on élit un bureau, enfin, voilà, des gens à qui on confie le pouvoir. En fait, on pourrait penser les choses différemment en s'inspirant des Nambi Kwara, en disant, bah, finalement, bah, on est en Assemblée Générale plus souvent et moins souvent en verticalité, quoi. Après, Claude Lévi-Strauss, mais aussi Robert Lowy, ils sont aussi allés voir des chefs qui sont sans pouvoir, hein, où la domination est renversée. Et ça, c'est aussi assez drôle parce qu'en gros, il y a des sociétés, et ça c'est David Graeber dans son livre là, Au commencement il était, il en parle très bien, et c'est de là qu'on comprend les exemples. C'est qu'il y a des groupes qui sont dit, des civilisations qui disaient, bah, à côté, enfin, le groupe d'à côté, ils ont un chef, et puis, oh là là, c'est l'horreur. Donc, du coup, bah, nous, on va faire autrement. Mais on va quand même se doter d'un chef. Et en fait, ils ont des chefs, mais sauf qu'ils ont aucun pouvoir, hein. Le boulot, en fait, du chef, c'est de faire des beaux discours. Mais en même temps, bah, il doit rendre service à tout le monde. Si quelqu'un lui demande quelque chose, en fait, il doit rendre, il doit l'accepter. Donc, c'est assez drôle. En fait, c'est possible d'avoir des chefs qui sont sans pouvoir, où la domination est renversée. C'est-à-dire que, en fait, c'est le chef qui doit obéir finalement à ses subordonnés. Et ça, on a pris des exemples aussi, plus français, plus européens, puis plus, voilà. Notamment, c'est un chercheur qui s'appelle Stéphane Jomier, qu'on mobilise beaucoup aussi dans le livre et qui nous parle d'une entreprise, une casse, en fait, de voitures, qu'il appelle Scopix. Et en fait, c'est une coopérative. Donc, c'est-à-dire que c'est les salariés qui sont les détenteurs du capital de l'entreprise. Donc, ils sont les salariés sont les propriétaires de leur entreprise. Ils sont quand même dotés de chefs, hein. Il y a des gens à qui ils ont donné des mandats, et ces personnes, bah, elles sont là pour organiser et contrôler le travail. Sauf que quand le petit chef, le contremaître, en fait, il vient pour parler au gars de l'équipe, eh ben, l'ouvrier dit, bah, attends, tu me donnes des ordres là, mais attends, tu te prends pour qui? En fait, moi, je suis ton patron. Voilà. Donc on est aussi dans des organisations où les chefs, en fait, ils n'ont pas autant de pouvoir qu'ailleurs, parce qu'en fait, le chef, il est aussi salarié de l'ouvrier. Voilà. Donc les choses sont plus compliquées et c'est assez intéressant. On mobilise plein d'exemples.
Il y a des exemples assez comiques d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est Grébert où être chef, c'est tellement horrible en fait. Où ils doivent subir des corvées ou être dénués absolument de tout. C'est l'inverse de ce qu'on a chez nous, où la chefferie va avec des privilèges monstrueux. Là, ça va avec le contraire des privilèges, quoi.
Après, dans les associations, en vrai, moi, dans les assos que j'étudie, puisque je suis d'abord un sociologue du monde associatif, les gens ne courent pas après non plus la présidence de l'association ou cette direction. Bah, voilà, des fois, il y a du mal à trouver des candidats. Après, j'ai un autre exemple qui est hyper intéressant. On en a parlé quand on a préparé l'émission. C'est celui d'Ambiance Bois. Voilà, donc c'est dans le Limousin. C'est une scierie qui a été créée dans les années 80 par des Parisiens qui avaient envie de faire vivre le rêve autogestionnaire et puis qui arrivent pas mal depuis tout ce temps-là. Et eux, bah, du coup, voilà, plutôt principe de l'égalité, chevillé au corps, bah, personne ne veut être le dirigeant de la coopérative. Parce qu'en gros, ils ont créé une entreprise, parce qu'il faut quand même une structure. Et en fait, ce qui est embêtant, et ça, c'est aussi ce à quoi se confronte aussi l'autogestion et les structures de l'économie sociale et solidaire. C'est qu'en fait, on a beau ne pas vouloir de chef, on peut fonctionner en assemblée générale et prendre toutes les décisions ensemble. Hein, c'est ce qu'ils font. Sauf que, bah, sur le papier, hein, pour la préfecture, pour la chambre de commerce, pour le tribunal, en fait, ou pour la banque tout simplement, hein, il faut un nom, il faut un gérant. Voilà. Et du coup, bah, ce qu'ils font, eux, ils se disent, bon, bah, en fait, on ne veut pas de gérant, mais il en faut un. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au chapeau. Voilà. On tire au sort. Donc, ils mettent littéralement hein, les noms de tous les membres qui veulent bien potentiellement s'y coller dans un chapeau et c'est tiré au sort. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, du coup, il y a un chef tournant. Et ça dure, il me semble, ça dure un an. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, en effet, ça donne aucun privilège d'être le gérant de la coopérative. Par contre, ça donne des responsabilités. Et ça, parce que c'est la loi. La loi, en fait, même si on a une structure autogestionnaire, elle contraint et elle continue de s'appliquer. Et du coup, ça, il faut surtout pas nier la loi parce que c'est un danger, quoi. Et eux, en gros, ce qu'ils se sont dit, bah, c'est qu'on fait tourner, en fait. On tire au chapeau, mais on fait aussi tourner cette fonction parce qu'en fait, ces responsabilités, elles peuvent être lourdes à porter. Et en effet, dans cette entreprise, il y a eu un accident du travail dramatique, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la scierie, un accident du travail, voilà. Et bah, du coup, la personne qui avait mis son nom comme gérant de la structure était responsable pénalement de l'accident. Voilà. Donc on comprend bien hein, que ça peut être lourd aussi d'avoir juste son nom sur un bout de papier.
Et puis alors, il y a aussi qui se pose d'une manière très fine les problèmes des salaires. Alors il peut y avoir un idéal d'égalité salariale, mais ce qui ne va pas sans poser de problème assez légitime d'ailleurs et complexe.
Ah ben ça, partager le pognon, c'est une question qui est assez compliquée, hein, parce que en gros, ça, voilà, dans le monde capitaliste, voilà, on sait bien que c'est pas les gens les plus utiles qui gagnent le plus d'argent. Hein,
bien voilà. Au contraire.
Voilà, bien au contraire, voilà, un trader est hyper bien payé quand une infirmière est très mal. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, en tout cas dans les structures autogestionnaires qu'on a allé voir, en fait, il y a une réflexion sur la répartition des richesses. Voilà, c'est pas du tout un tabou. Voilà. Donc, on parle de comment on se partage les richesses et l'argent. Et il y a une créativité assez dingue sur la manière dont on se répartit les richesses. Donc, il y a des gens qui font le choix de l'égalité salariale. Voilà. Mais dans le Limousin, par exemple, à Ambiance Bois, pour prendre un exemple, ils ont décidé d'avoir tous le même salaire. Hein, donc, quel que soit le travail, le poste dans l'entreprise ou même le temps passé. Sauf que du coup, c'est des salaires qui sont plutôt bas. Voilà, ils sont dans le Limousin, donc ils sont autour du SMIC. Voilà, c'est des salaires qui sont très bas, mais qui peuvent se le permettre. Puis c'est un choix aussi politique. Après, on a rencontré d'autres structures qui sont issues de cet univers autogestionnaire du Limousin, notamment la Navette. C'est une coopérative qui fait de la rédaction d'articles. Voilà, voilà. Bah, du coup, ils gagnent un peu mieux leur vie et eux, ils ont décidé de se payer plus du double du SMIC. Voilà. Donc, en gros, l'égalité salariale, mais ça peut être avec un salaire très bas ou un salaire plus confortable. Et ce qui est intéressant, notamment à la navette par exemple, c'est qu'ils se disent ok, on est tous payés pareil, mais indépendamment de la productivité. Voilà, et indépendamment du temps passé aussi au travail. C'est-à-dire qu'on avait, à la navette, évidemment, il y avait des anciens rodés à l'écriture d'articles, très productifs. Bah, ils gagnaient autant que le petit jeune qui venait d'arriver et qui était beaucoup moins productif. Voilà, donc en fait, ils déconnectent finalement le revenu du travail, quoi. Il n'y a pas de prime à la performance, pas du tout. Ensuite, il y a des gens, mais ça, c'est peut-être presque un peu plus classique. Et en même temps, il y a aussi de l'innovation, des structures qui ont fait le choix d'accepter des inégalités dans les salaires, mais qui sont justes. Voilà. Donc, c'est quoi une inégalité juste? Alors, chacun fait ses choix. Hein. Nous, on juge pas. Hein. On a fait une collection de. Il y a le problème hein, qui se pose, c'est comment on fait pour répartir la richesse. Et voilà. Et il y a plein de gens qui trouvent plein de solutions, et chacun. Prend la solution qui lui plaît le plus. Donc sur les inégalités justes, bah voilà, il y en a qui se disent bah voilà, moi j'ai de l'ancienneté, bah du coup si t'as de l'ancienneté, c'est normal de gagner plus. Ça peut être quelqu'un qui est plus qualifié aussi, ou quelqu'un qui a plus de responsabilités. Voilà, ou quelqu'un qui s'investit plus, quelqu'un qui passe plus de temps au travail. Voilà, si quelqu'un travaille le double des autres, bah peut-être c'est normal qu'il gagne le plus. Voilà. Après, il y a d'autres gens qui se sont dit, là, c'était une structure de qui fait de la formation professionnelle. Et à un moment, voilà, ils étaient tous payés, pas des milliers, des cents, je ne me rappelle plus exactement combien ils étaient payés, mais il y avait une des membres qui était une femme et qui dit, en fait, ok, on est tous payés pareil, sauf que moi, ça ne me va plus. Voyez, parce que vous êtes tous célibataires, sans enfants, moi, j'ai trois gamins et en fait, j'ai envie de partir en vacances. Et du coup, c'était, ils ont fait un choix, ils ont dit, ok, on va faire un salaire au besoin. Hein. Voilà. Et du coup, ça a créé une inégalité. C'est si quelqu'un avait plus de besoins en salaire, donc du coup, on lui donnait plus d'argent. Dernier exemple, on a vu aussi une structure où les salariés définissent eux-mêmes combien ils doivent gagner. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils se positionnent, voilà. C'est à eux de dire, en gros, le salaire dépend de plusieurs critères, notamment il y a l'ancienneté, et ensuite il y a le critère de la compétence. Donc c'est les salariés qui disent, est-ce que je suis compétent, plus ou moins haut par rapport aux autres? Est-ce que je suis autonome dans mon travail? Oui, non. Et en fait, on se positionne sur l'échelle des salaires et on gagne plus ou moins. Voilà. Donc c'est les salariés qui disent combien ils doivent gagner. Donc hyper intéressant. Mais tout de suite, c'est quoi le problème à votre avis? Énorme problème, on le voit arriver, ce truc de dingue, c'est que les mecs, en fait, ils se surévaluent par rapport aux nanas.
Femmes, bien voilà. Sûr.
Et les femmes ont toujours plus de mal à demander, à se positionner haut, à dire ouais, moi j'ai telle responsabilité. Voilà. Donc il y a quand même aussi des biais et des dangers dans chacun de ces systèmes. Si on gagne tous pareil, ça peut démotiver si on travaille plus que l'autre. Si on choisit soi-même son salaire, il y a le risque des inégalités de genre qui est clairement très fort.
Et, pardon.
Vas-y.
Il y a aussi une question qui est très finement posée, c'est celle de la division du travail. Dans les structures autogérées comme ça, il peut y avoir aussi, de même qu'il y a une volonté de dissoudre la hiérarchie, de dissoudre la division du travail.
Oui.
Mais ça pose aussi des tas de questionnements complexes.
Ah je vais en donner un que j'adore. Alors.
Ouais.
Mais c'est vrai que, parce qu'en fait, comment on fait pour avoir une structure autogestionnaire? Bon, on l'a dit tout à l'heure, on a un risque, c'est que certains soient plus compétents que d'autres. Donc comment on peut faire ça? Tout simplement, c'est dans les organisations autogestionnaires, le choix qui est fait en général, c'est celui de la polyvalence. En fait, on fait tous.
Oui.
Pourquoi? Parce que comme ça, on connaît tous le travail les uns des autres, on a tous le même niveau de connaissance sur l'entreprise, puis là où on en est. Et ensuite, on est aussi légitime pour décider. Sauf qu'en fait, la polyvalence sur le papier, c'est très joli, mais parfois, en fait, c'est pas du tout adapté à l'activité. Et du coup, là, je vais parler d'un exemple de la conquête du pain, qui était parce qu'elle a fermé l'an dernier, une boulangerie anarchiste de Montreuil. Voilà, ils vendaient des sandwichs Bakounine et Louise Michel. Voilà. Et puis pour rentrer, il fallait pousser la porte si c'était un A anarchiste qui était sur la poignée. Et du coup, eux, ils ont eu un problème, c'est qu'au début, ils se sont dit bon, voilà, on est une boulangerie, on va tous faire le même boulot. Hein, donc on est polyvalent. Ouais. Sauf que faire de la production de pain, déjà, faut se lever tôt. Ensuite, il y a un savoir-faire. Et encore plus dur que ça, faire des pains au chocolat, c'est hyper galère. Parce qu'en fait, c'est une pâte feuilletée. En fait, il faut un sacré coup de main. En fait, c'est un métier. On ne peut pas décréter qu'on est tous polyvalents et que tout le monde va faire des pains au chocolat. Et du coup, dans l'équipe de la conquête du pain, il y en a un qui était meilleur ouvrier de France, ou quasiment, et lui, son projet, c'était de faire des pains au chocolat plus beaux que ceux que les capitalistes. Voilà, super projet. Et c'est vrai, je les ai mangés, ils étaient excellents. C'était les meilleurs pains au chocolat que j'ai mangés de ma vie. Mais le problème, c'est que faire des pains au chocolat plus beaux que les capitalistes, en fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc du coup, ils se sont dit, bah, à un moment, il y a eu des discussions, et ils se sont dit, bah, en fait, on ne peut pas continuer. Comme ça, la polyvalence n'est pas possible. Donc du coup, il y a des gens qui vont faire la production, qui vont faire le pain et les pâtisseries et les viennoiseries, puis il y en a d'autres qui vont faire la vente. Voilà. Du coup, c'était parce que, en fait, c'était pas possible de faire de la polyvalence pour faire du bon travail. Après, bon, il y a plein d'autres obstacles, en fait, à la polyvalence. Le risque de l'insatisfaction, par exemple, c'est qu'il y a des gens, on allait dans une crèche, où on a vu une crèche où les salariés, ils n'avaient pas forcément envie de faire toutes les tâches. Il y en a qui n'étaient pas à l'aise avec les tâches administratives, parce que voilà, c'était des gens qui n'étaient pas forcément très qualifiés, qui n'étaient pas à l'aise avec la bureautique ou des choses comme ça. Elles n'étaient pas forcément non plus à l'aise dans les rapports avec les parents, parce que ouais, c'est une crèche, du coup, il faut discuter, transmettre des informations. Et puis, voilà. Donc, du coup, ce qu'ils se sont dit, bon, bah, on ne va pas mettre les gens en difficulté non plus. C'est pas l'idée, la polyvalence, c'est pas de se rendre malheureux au travail. Donc ils se sont dit, bon bah voilà, bon, ok, bon, on va confier les tâches administratives et des relations avec les parents à deux personnes. Voilà, parce que quand même, ils avaient toujours ce principe autogestionnaire chevillé au corps. Donc on met fin à la polyvalence. Par contre, c'est pas une seule personne qui va s'occuper de ces tâches, hein, qui sont un peu centrales, en fait, hein, l'administration et puis les rapports aux parents. On va les confier à deux personnes. Comme ça, voilà, au moins, les informations sont partagées. Et puis, il n'y a pas une seule personne qui incarne ça. Évidemment, l'autre risque sur la polyvalence qui est important, bah, c'est celui de l'inefficacité. Hein, parce que si elle a déjà du travail, en fait, Taylor, s'il l'a mis en place de manière complètement acharnée, c'était pour faire de la productivité. Et ce n'est pas non plus déliant. Genre, dans le sens, si on fait tout, eh ben, on peut être bon nulle part, alors que si on se spécialise un petit peu, ben, on est plus efficace, on est plus rapide. Voilà. Et parfois, eh ben, c'est nécessaire d'être rapide. Ben, c'est un peu le cas de la conquête du pain aussi. Quoi. C'était inefficace de mettre des gens pas formés boulangers à faire du pain. Quoi.
Pardon. Pourquoi ça a fermé la conquête du pain ?
Bon, la conquête du pain, ça a fermé pour différentes raisons, et puis je pense que ce sera à eux de les expliquer. Mais il y a eu des problèmes économiques, de gestion, puis aussi des peut-être des conflits qui ont été mal gérés. Donc je sais qu'il y a une copine qui va faire le bilan un peu, justement pour faire aussi cette culture des précédents, parce que c'est important de comprendre là où on a échoué pour pas que ça se reproduise. Voilà. Après, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est peut-être que ça nous amène d'ailleurs sur une autre partie du livre. Mais en fait, quand il y a des problèmes interpersonnels, en fait, il faut les prendre en charge, hein, faut pas se dire que ça va passer. Et ça, c'est peut-être un truc que dans la structure autogestionnaire, on a du mal. Parce que vu qu'on est entre copains, hein, cop avec deux os, hein, coopérateur, copain, entre camarades, et qu'on n'a pas de chef, eh bien, en fait, c'est ce qu'on dit dans la dernière partie du livre. C'est que moi, j'aime pas les chefs. Clairement, Baptiste non plus, vous non plus, j'imagine, et tout. Mais est-ce qu'un chef, ça sert à rien ? Donc, on a envie de répondre oui, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Les chefs, ils remplissent quand même des fonctions. Hein, ils servent à quelque chose, notamment dans les entreprises. Et les fonctions qui sont souvent dévolues aux chefs, bah, ça va être, par exemple, recruter, bon, avec des guillemets, prendre soin des uns des autres. Hein, parce qu'en fait, les patrons, en fait, ils ont une obligation de prendre de santé, sécurité au travail. Donc c'est leur fonction, hein, même s'ils ne la remplissent pas toujours. Leur boulot de patron, en fait, c'est aussi de gérer les tensions. Et quand ça déconne, en fait, de virer les gens. Et bah, du coup, comment on fait quand on est entre copains, entre camarades, hein, pour tout ça, bah, c'est beaucoup plus compliqué.
Il y a une question aussi, pardon, sur le travail autrement. Tu dis partager les tâches pénibles. Alors là, évidemment, en tant que femme, je trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'en général, les tâches pénibles, elles sont souvent le lot des femmes. Alors, comment on fait pour partager ? En fait, est-ce que, finalement, il n'est pas possible de mettre en place un système qui repose à la fois sur les différences et à la fois sur les complémentarités ? tu vois. C'est-à-dire que chacun, en fonction de son expérience, en fonction de son histoire, en fonction de ses désirs, de ses goûts, etc. Pourquoi est-ce que ça pose problème, ça, en fait? On est différents. Donc, il y en a qui vont plutôt s'intéresser à l'économie, plutôt s'intéresser, justement, à régler les conflits, parce qu'ils ont voilà, une sensibilité particulière et qu'ils ont les capacités de pouvoir faire ça. Voilà. Pourquoi c'est si compliqué, en fait?
Ouais. Alors, du coup, dans un livre, on n'est pas des consultants, donc on donne pas de conseils, juste on repère des problèmes, on pose des questions, puis on essaie de voir comment les gens ont résolu ces problèmes. Après, il y a une chose qui est sûre et certaine, bon, là, du coup, je vais faire mon consultant, c'est que, en fait, chaque collectif, chaque groupe, en fait, est différent et que, en fait, chaque groupe doit donner ses propres règles. Voilà. Donc, il y a des choses qui se discutent, en fait. Voilà. La polyvalence n'est pas l'alpha et l'oméga, clairement. Et clairement. Du coup, on peut accepter, voilà, des différences, en fonction des sensibilités, et c'est ce qu'il faut le faire, il faut que tout le monde se sente bien aussi dans le collectif. Par contre, et ça, on utilise un exemple, c'est celui de Twin Oaks, aux États-Unis. Twin Oaks, c'est une communauté intentionnelle. Voilà. Donc c'est à la fois un village, les gens ils habitent ensemble, et en même temps ils bossent ensemble, ils travaillent ensemble. En fait, c'est assez intéressant parce que bah, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une rotation des tâches, même s'il y en a quelques-uns qui se spécialisent, je sais pas moi, sur la production maraîchère ou sur le bricolage. Bon. Par contre, il y a des tâches que personne ne veut faire. Alors, à votre avis?
Bah, les tâches ménagères, les trucs de femmes, quoi.
Ouais, le pire pour eux, c'est la vaisselle. Ah, personne ne veut faire la vaisselle. Alors du coup, ils se sont dit, mais ah là là, comment on fait? Les gens veulent bien faire la cuisine, hein, ils veulent bien faire le ménage, ils veulent bien s'occuper des gamins, mais la vaisselle, personne, quoi. C'est le drame. Donc du coup, ils sont obligés de se dire, bah, comment on fait, en fait, pour partager les tâches pénibles? Bon, donc ils se sont dit, bon, bah voilà, ils ont essayé plein de trucs. Ils se sont dit, bah, dans cette communauté, chacun doit travailler 40 heures. Ça peut sembler beaucoup, mais dans les 40 heures, ils ont une définition du travail qui est un peu différente de la nôtre. Dans les 40 heures, il y a donc le travail productif, mais il y a aussi les temps de production, il y a aussi parfois s'occuper des enfants, aller manifester, hein, contre Donald Trump, bah, c'est aussi du travail. Voilà, donc c'est une définition extensive, voilà, dire, du travail qui est assez amusante et qui est très stimulante. Voilà. Mais du coup, comment ils ont fait pour partager les tâches pénibles? Alors, donc ils se sont dit, bah, alors 40 heures, bon, bah, peut-être que la vaisselle, si personne ne veut la faire, bah, quand on fait une heure de vaisselle, ça vaut 2 heures. Voilà, ils ont essayé ça. Après, ils se sont dit, bon, bah, tiens, on va mettre en place un jeu de cartes. Et vous voyez, chaque carte représente une tâche. Et puis, on fait tourner le jeu de cartes plusieurs fois. Et bon, à la fin, bah, il reste que la vaisselle et pas de chance sur celui que ça tourne. Voilà. Après, ils se sont dit, bon, bah, ici, c'est obligatoire, hein, de faire la vaisselle. Voilà. Bon. Et bon, eh bien, il faut le dire. Hein,
ils n'ont pas acheté de machine.
Si, ils ont acheté des machines à laver, mais bon, il faut quand même remplir les machines et puis les vider. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de solution idéale qui leur convienne au maximum. Et au point, après, parce que je trouve ça un peu rigolo, parce que Twin Oaks, c'est des gros anarchistes quand même. Et bah, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Ils font comme tout le monde, en fait, c'est pas grave, mais il faut juste le dire, c'est que, bah, en gros, Twin Oaks, c'est très, très réputé aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent tout le temps visiter cette structure. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui viennent en stage, bah, et du coup, ils leur refilent la vaisselle et ils leur refilent de sortir les poubelles, quoi. Donc, franchement, des fois, la nature humaine, on se dit, ah, c'est pas possible. Mais bon, en fait, ils ont trouvé une solution, voilà, qui est pas glorieuse, hein. Finalement, c'est ce qu'on fait beaucoup, hein, c'est-à-dire externaliser le travail. Hein, on demande à d'autres, bah, qui sont que de passage. Et par contre, ce qui va dans cet exemple, c'est que les gens qui sont que de passage, en fait, ils sont contents de faire la vaisselle et de sortir les poubelles. Donc, en fait, finalement, tout le monde est content.
C'est drôle. C'est où, Twin Oaks?
Alors, je ne me rappelle plus dans quel état c'est, ouais. Mais en fait, aux États-Unis, il y a toute une série de communautés intentionnelles comme ça, et elles sont assez en réseau. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, en gros, quand on est dans une structure autogestionnaire, des fois, un peu plus, en fait, de ses camarades. Mais ça, c'est humain. Hein. On passe quelques années ensemble. En plus, on travaille, on vit ensemble. Donc, à un moment, on peut tourner en rond. Et du coup, elles sont en réseau. Et du coup, quand les gens, ils en ont marre, bah, du coup, ils peuvent aller dans une autre communauté. Voilà, comme ça, ils reprennent de l'énergie. Ils ont re-envie, en fait, de s'engager dans une aventure démocratique.
On arrive presque à la fin de notre émission. Ça passe très, très vite. Et... vous écrivez en conclusion, l'économie sociale et solidaire forme dans l'ici et maintenant une société alternative miniature et réaliste qui annonce les changements plus grands qui doivent advenir.
Ouais. Oui, on pense que c'est...
C'est très, très optimiste.
Oui, en fait...
Justement, la question, c'est est-ce que c'est de l'utopie ou est-ce que c'est vraiment réaliste?
Ben, c'est une utopie préfigurative. Allez, c'est les deux. Bien sûr que c'est une utopie, en fait, ces valeurs de démocratie, de partage des richesses et de travailler en coopération, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Mais d'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup, là, de science-fiction, d'une très, très grande autrice qui s'appelle Ursula Le Guin, qui a écrit « Les dépossédés ». Et dans Les Dépossédés, elle raconte, en gros, il y a deux mondes qui se font face à face. Une planète capitaliste, évidemment tout va mal, et un monde plutôt communiste, libertaire, où tout va bien. Et en fait, petit à petit, dans le livre, en fait, elle amène beaucoup de nuances, voilà, sur le monde capitaliste, mais aussi sur le monde communiste, libertaire. Elle montre, voilà, tous les problèmes, en fait, qu'il y a sur cette planète. Voilà, elle dit que c'est une utopie qui est aussi ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'en fait, elle est extrêmement difficile à mettre en place. Il y a énormément de problèmes qui vont avec l'autogestion. Voilà. Et en fait, ces problèmes, nous, on les trouve super intéressants. Parce que dans les entreprises capitalistes, dans l'administration, en fait, il y a aussi plein de problèmes. Hein, ça fonctionne pas du tout, ce modèle-là. L'autogestion, ça fonctionne pas non plus. Mais en fait, pas plus, pas moins que les autres. Sauf que nous, on trouve que ces problèmes, hein, ils sont hyper intéressants. Ils sont hyper stimulants. Hein, comment on fait pour empêcher un chef? C'est quoi le bon périmètre de la démocratie? Comment on fait pour travailler sans patron, se répartir les richesses? C'est travailler entre égaux. Enfin, comment on fait pour s'employer mutuellement, pour s'embaucher, enfin prendre soin les uns des autres.
Pour dissoudre le salariat.
Ouais,
dissoudre,
ouais, voilà. Et en tout cas, c'est des questions qui sont hyper intéressantes, hyper stimulantes. Du coup, nous, on préfère choisir ces problèmes, ceux de l'autogestion, plutôt que les problèmes des entreprises capitalistes. Quoi.
Je trouve que c'est une formidable conclusion.
Merci.
Voilà. Ben, c'était, merci à Simon Cotin-Marc, je répète le titre du bouquin, avec Baptiste Milondeau, Travailler sans patron chez Gallimard. Merci encore.
Merci pour l'invitation.
Merci Frédéric.
Merci Frédéric.
Et à la prochaine.
Ses 2000 casseroles sans s'approcher de la cuisinière. celui-là, il faut s'en méfier. Il est trentenaire, célibataire, mais vous emmène, ça fait rêver. En vacances, au bord de sa mer, sans être une fille facile, j'étais pourtant pas difficile. Faut se méfier du salaud qui dort et du dépressif incompris, de l'homme affamé, de l'omnivore, en un mot, de l'homme de sa vie. Alors, pour pas faire de jaloux, alors je pense, donc je fuis. Parce que l'on peut souffrir de tout, mais pas avec n'importe qui. Adieu vos vaches, cochons, à nous les garçons. Moi d'habitude, j'ai l'habitude de bonne conscience en mauvaise foi. J'ai bien trouvé la solitude, mais toujours pas le mode d'emploi. Alors, pour plus me faire piéger face à l'éternel masculin, au moins, moi je suis une femme libérée. D'ailleurs, je suis libre aussi le matin, mais ça va bien. Adieu vos vaches garçons, à nous les cochons.
Espagne que nous avons perdue, ne nous perds pas. Garde-nous sur tes fronts défoncés. Conserve sur tes flancs la blessure vive de notre absence amère. Un jour nous reviendrons, véloces, sur le dos vaste et puissant de la mer, les bras dans ses flots et les battements de son cœur dans la gorge. Aujourd'hui, je porte ma terre dans les yeux, et il me suffit de regarder pour la voir croître. Je sens votre appel, verte prairie. J'entends vos paroles, arbre centenaire, et je vous cherche inutilement tout au long du jour. Ni l'envol des trilles, ni le chant des branches ne briseront le lourd silence de ma bouche. Si je restais immobile, comme ce beau chêne, vos oiseaux viendraient nicher sur mon front. Vos os viendraient mordre mes racines, et je verrais encore, dans sa blancheur,